Sous le radar, une émission de Radio Créum.
Mais ce que je trouve intéressant avec le cas de Montréal, on a une situation qui peut être retournée complètement de côté. Si on prend les mesures adéquates en ce moment, on pourrait permettre une bonne accessibilité dans les prochaines décennies, autant qu'on pourrait prendre des mauvaises décisions puis se retrouver à la même place que les autres grandes villes canadiennes le sont. Donc, c'est vraiment un point tournant, je crois, au niveau du logement locatif privé à Montréal. Puis, c'est pour ça que c'est important d'en parler, puis de ramener ça sur le plancher et de l'étudier dans toutes les perspectives possibles afin d'obtenir des mesures concrètes qui vont permettre la conservation de ce statut-là.
Deux choses. Un, que le logement est un bien essentiel, mais que le logement demeure toujours un bien privé aussi. Comment on essaie de concilier ces deux choses-là, qui n'est pas facile, parce que d'un côté, il y a une question de rentabilité, il y a des gens qui investissent dans le logement, et on voudrait bien souvent que ce logement-là soit aussi un moyen parfois détourné de redistribution de la richesse aussi, c'est-à-dire que les gens qui payent moins cher pour le logement vont avoir de l'argent pour dépenser ailleurs dans l'alimentation, dans le loisir ou autre, mais ça demeure quand même de propriété privée. Et c'est la conciliation de ces deux choses-là qui, des fois, résulte en des crises, effectivement.
Chaque année, à l'approche du 1er juillet, les Montréalais déménagent. Pour suivre le mouvement, les médias s'inquiètent de l'état du logement locatif en se focalisant essentiellement sur le taux d'inoccupation. À Radio Créum, nous pensons que les problèmes réputés pour être simples sont souvent bien plus compliqués que ça. Et en creusant le sujet, nous avons exploré les fondements moraux de ce problème récurrent. Quelle fondation morale pour le logement locatif ? À Montréal.
Différents intervenants, dont les gouvernements.
Anne Thibault, coordonnatrice du comité logement de la Petite Patrie.
Dont la Société d'habitation du Québec, la Société centrale d'hypothèque et de logement et les médias traditionnels. Il y a crise du logement quand le taux d'inoccupation des logements est inférieur à 3 %. C'est à ce moment-là que tout ce beau monde-là parle de crise du logement. Mais pour les gens qui travaillent au quotidien dans les comités logement ou les associations de locataires, il y a toujours une crise du logement, principalement pour la majorité des locataires qui ont des revenus insuffisants, ce qui signifie que le taux d'effort au logement est supérieur à 25 % de leurs revenus. Ou il peut y avoir crise du logement également lorsque des locataires habitent dans des logements qui frisent souvent l'insalubrité. Donc, il y a toujours une crise du logement au Québec parmi les populations les plus appauvries ou les plus marginalisées de la société.
Sur le marché du logement, il y a une clientèle qui est rentable puis une clientèle qui est non rentable, une espèce de clientèle que certains disent résiduelle. Là.
Daniel Gill, professeur à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal.
Et donc, si les prix sont trop hauts, mais la clientèle rentable, qui est la clientèle intéressante pour les propriétaires d'immeubles, ils vont la perdre. Donc, pour les propriétaires d'immeubles, ils sont un peu en compétition avec le marché d'accession. C'est-à-dire que demain, on ne pourrait pas avoir des loyers à 1 000, puis 1200, puis 1500 piastres par mois. Les gens s'en iraient tous en condo.
C'est toute la question du contrôle du loyer au Québec, parce que c'est par là que ça passe, l'augmentation des loyers. Et la première chose à vraiment mettre un terme, c'est la question du fait que les propriétaires profitent du départ d'un locataire et de l'arrivée d'un nouveau locataire pour augmenter les loyers de façon considérable. Et ce que les groupes logements la défense des droits des locataires revendique depuis plusieurs années, c'est la question d'un registre des baux. Et là, à ce moment-là, on pourrait prélever ces informations-là dans un registre qui pourrait être consulté par les locataires quand on recherche un logement. Et là, on aurait le prix payé par l'ancien locataire. Et à ce moment-là, ça permettrait aux locataires d'avoir une information pleine et entière et de pouvoir vraiment, à ce moment-là, lors de la signature du bail, de pouvoir négocier avec le propriétaire pour une augmentation de loyer plus raisonnable. Et s'il n'est pas possible de négocier, à ce moment-là, le recours existerait pour le nouveau locataire en révision du coût du loyer à la régie du logement. Et ça nous permettrait déjà de fermer une grosse brèche par rapport au contrôle des loyers.
En fait, c'est un peu aberrant que la responsabilité revienne au locataire de, un, obtenir le dernier bail pour vérifier le loyer.
Carole-Anne Rivet, titulaire d'un bac en urbanisme et auteur d'un rapport sur le logement locatif à Montréal.
De connaître bien la législation, c'est pas tous les gens qui sont aptes à comprendre même comment ça fonctionne. Le fait que la compétition soit très féroce à Montréal pour les logements, principalement dans les quartiers centraux, fait que les gens, même les gens qui savent comment ça fonctionne, n'osent pas demander le dernier bail parce que t'es 8 pour attendre un appartement. Tu sais très bien que si tu le demandes, tu risques d'être éliminé. Cette férocité-là joue beaucoup, là. Le fait d'avoir un registre enregistré des baux vérifie de façon automatique que les augmentations sont réglementaires, puis permet une vraie augmentation contrôlée, là. C'est ça, un contrôle des loyers, pas les gens qui vérifient par eux-mêmes.
Contrôle des loyers, il en existe un. La régie du logement contrôle le prix des loyers. Elle ne fait pas sur une base universelle, mais tout locataire qui veut contester le prix de son loyer peut le faire et le loyer va être fixé selon des normes prescrites par la régie. Le problème, c'est que les gens ne s'en servent pas. Il n'est pas automatique. On parle plus d'avoir un contrôle général. Ça, si jamais il y avait un contrôle comme ça, il n'y aurait plus d'investissement qui va se faire. Même si on calculait tous les coûts, il y aurait effectivement trop de contrôle et les gens iraient dans des formules qui sont plus payantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les gens vont investir dans le secteur de l'immobilier en leur disant « ben vous, cette année, là, vous allez pouvoir faire 4 % maximum de rendement. » Les gens vont regarder les autres rendements qui sont ailleurs puis ils vont aller ailleurs. Donc, il faut laisser la chance aux joueurs de dire « ben moi, je cherchais cet immeuble-là, peut-être je vais avoir un rendement de 12-15 %. »
Si on regarde au centre-ville de Montréal, pourquoi n'y a-t-il pas de construction de grands tours de résidentiels? Là, ça me surprendra si c'est entièrement question de subventions gouvernementales.
Joseph Heath, professeur au département de philosophie de l'Université de Toronto.
Ça doit être aussi question de prix, parce que si on regarde encore les statistiques, on peut voir que le prix des appartements à Montréal reste très bas en comparaison avec le reste du Canada.
C'est d'ailleurs la position de la Ligue des propriétaires par rapport au fait qu'une des réglementations, entre autres, devrait amener une stabilisation du marché. Mais les chiffres démontrent clairement que c'est pas ça qui se passe en ce moment. Les constructeurs et les promoteurs, en fait, se réalignent plus vers une construction plus lucrative, comme les logements plus luxueux ou les résidences pour personnes âgées. Globalement, la mise en chantier au niveau des logements locatifs privés ont été diminués dans la dernière décennie, ont diminué de façon considérable. On peut attribuer ça à l'arrêt des programmes d'aide gouvernementaux à la construction de logements locatifs privés. Les dates là, sont assez claires par rapport à ça. Ça permet de dégager le fait que si on laisse le marché aller, naturellement, les promoteurs vont aller vers ce qui est plus rentable pour eux et non ce qui est bon pour la population.
Mais le marché, il veut faire rien qu'une affaire, c'est faire de l'argent.
Normand Roy, propriétaire de deux quadruplexes à Montréal.
Prix plancher puis faire de l'argent, c'est pas des affaires qui vont ensemble. Fait que c'est sûr que le marché veut pas aller là. Faut pas s'attendre à ce que le marché fournisse de bon cœur des logements peu dispendieux, à moins que le marché réussisse quand même à développer les marges auxquelles il aspire. Parce que rappelons-nous que le capital, il peut aller n'importe où. Il peut aller dans la construction immobilière, dans l'opération immobilière, mais il peut se revirer de bord puis aller dans le pétrole, puis ça le dérange pas. Fait que le jour où l'immobilier a des niveaux de rentabilité peu intéressants, les capitaux sont pas là, puis là, on a une autre crise. Puis à mon avis, la solution est jamais... Moi, je crois pas au marché tant que ça. Je suis vraiment pas un croyant que l'offre et la demande vont s'équilibrer par eux-mêmes, puis que je pense pas que le bien-être humain peut être accompli via le marché. Le marché, c'est une affaire de tigre puis de requin, puis les requins, c'est pas bon pour l'humain. J'ai déjà vu des études qui démontrent le contraire, mais à mon avis, je fais de l'argent actuellement. À mon avis, quelqu'un d'autre m'aide à payer des hypothèques. C'est sûr que, étant donné ma philosophie, je vais capitaliser moins là-dessus que d'autres. Parce que si je vendais, c'est dans le fond, c'est là qu'on fait notre argent, avec des gains de capitaux. Moi, si je maintiens ma ligne dure de jamais vendre, je ne ferai jamais de gains de capitaux. Par contre, je trouve ça le fun de penser que je vais avoir des loyers qui vont rentrer toute ma vie.
Il y a des propriétaires occupants qu'on appelle, là, ceux qui habitent un duplex, un triplex et qui ont deux locataires pour les aider à payer leur hypothèque. C'est pas tout ce monde-là qui nie, qui vont à l'encontre d'un droit du logement, mais c'est vraiment les associations de propriétaires, et il y en a beaucoup au Québec. Donc, ils sont beaucoup organisés, et c'est là-dessus qu'ils vont. C'est toujours sur le profit, et eux, c'est toujours le maximum qui est souhaitable d'obtenir. Et même pour avoir été assiégés sur des comités de travail avec eux, ils se présentent comme des investisseurs.
Moi, je pense qu'il devrait y avoir des règles excessivement contraignante pour les entreprises privées. En termes de salubrité, en termes d'entretien, ce qui est loin de la réalité actuellement, là. Je trouve ça dégueulasse ce que font certains grands propriétaires. Puis c'est souvent les grands propriétaires. Le monde qui n'ont pas à aller affronter en pleine face les gens qui vivent dans des logements dégueulasses. T'sais. Fait que eux, je leur serrais à couenne pas mal. Bon, rentrons dans... C'est impossible de rentrer dans la vie et dans les finances du monde comme moi, tu sais, qui font presque des petits salaires. Moi, me dire qu'il est éthique d'aller rénover un appartement, viens voir c'est quoi mes finances, tu sais. Viens voir quel genre d'hypothèque j'ai sur ma maison, puis qu'est-ce que, effectivement, j'ai comme argent de lousse à la fin du mois, avant de juger. Fait que j'ai de la misère à te donner une réponse là, générale sur la question de quels sont nos devoirs en tant que propriétaire. Puis, rappelons-le, je mets les entreprises privées dans un autre lot. À mon avis, eux, ils n'ont pas des devoirs, ils devraient avoir des lois à respecter.
Mais là, il faut resserrer les taux. C'est comme ça que nous, on voit ça, pour empêcher que le logement soit une source de spéculation ou une source de super profit. Et je le répète, c'est vraiment par les promoteurs immobiliers. Parce qu'au Québec, même si il y a beaucoup de petits propriétaires, ils contrôlent très peu de logements locatifs. Okay? Un petit propriétaire occupant, là, qui possède juste un immeuble, possède un logement sur trois à peu près au Québec. Tandis que les gros propriétaires, hein, ceux qui possèdent 50 logements et plus, eux, ils contrôlent plus de la moitié des logements locatifs au Québec. Et ce sont eux, principalement, qui fixent les règles du jeu au niveau de l'habitation présentement.
Alors, il y a une question, c'est simplement question d'exploitation. Et là, il y a une très bonne raison d'avoir un régime de contrôle de loyer. On ne peut pas avoir simplement la loi de contrat entre les propriétaires et les locataires. simplement parce que le propriétaire dans ce genre de transaction a beaucoup de, en anglais, ce qu'on appelle « market power ». Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un marché concurrentiel entre les locataires et le propriétaire, dès qu'on est, on est installé dans un appartement, les coûts de déménagement, les coûts de trouver un autre appartement sont très onéreux. Alors, ça, c'est coûteux de trouver un autre appartement. Et ça, ça donne le propriétaire la possibilité d'exploiter ses locataires. Donc, c'est une très, très bonne idée d'avoir des contrôles sur ces relations et d'avoir une régie de logement, par exemple, qui est très facile, où le locataire peut y aller sans avoir un avocat, simplement pour plaidoyer son cas, etc. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est s'il y a des problèmes de justice sociale qui se posent par le prix qui est déterminé par ce marché. Et en particulier, on a parfois la tendance à croire qu'il y a un certain pourcentage de la population qui ne peut pas avoir accès à un certain bien, soit que ça, you know, c'est l'électricité, le logement, quoi que ce soit. On a tendance à croire que c'est à cause du fait que le prix est trop élevé. Et comme plusieurs économistes ont observé qu'il y a toujours deux aspects de ça. Ça pourrait être le cas que le prix est trop élevé, mais ça pourra aussi être le cas que ils n'ont pas assez d'argent. Alors le problème avec les gens qui sont pauvres avec le logement, c'est pas que le logement est trop cher, mais que les gens sont pauvres. Donc n'importe quand on veut améliorer un peu ce problème, on pourrait le faire en baissant le prix, mais on pourrait aussi le faire en augmentant les revenus des gens qui sont pauvres. Ensuite, là, il faut poser la question, est-ce que le problème est mieux adressé ou résolu en baissant les prix ou en augmentant le revenu de ceux qui ne peuvent pas en acheter?
Je dis, je suis d'accord à quelque part avec les corporations de propriétaires qui disent que ce n'est pas nous autres à pallier au manque de revenus des locataires. Ça, je suis d'accord avec eux autres. Eux autres, non. Mais l'État, oui. L'État a un devoir de faire ça.
Alors, moi je pense qu'on peut utiliser le système d'impôt pour faire toutes sortes de choses. Et on sait déjà qu'il y a des limites, il y a des effets pervers. Mais les effets pervers causés par la manipulation du système d'impôt sont beaucoup moins sérieux que les effets pervers causés par la manipulation des prix du marché. Disons qu'on a la construction des condominiums pour les classes moyennes. Mais l'avantage de cet arrangement, c'est que si les classes moyennes, pour le moment, elles sont en train de louer, voilà, une nouvelle tour condominium est construite, et ça libère des appartements pour les classes pauvres. Un des problèmes qu'on peut voir très clairement à Montréal, c'est qu'à cause du contrôle de loyer, il y a beaucoup de monde qui sont là depuis longtemps, qui ont des appartements à très bon marché, ils n'ont aucune incitation d'acheter une maison, parce que leur loyer est si bas. Alors, un des problèmes aussi qu'on peut voir avec les contrôles de loyer, bon, les contrôles qui baissent les prix artificiellement, c'est que dès qu'on baisse le prix d'un appartement, ce prix devient disponible à tout le monde dans la société, les classes moyennes et les classes défavorisées. Et ça veut dire que les classes moyennes vont rester dans leurs appartements beaucoup plus longtemps. Et ça va coincer, ça va baisser le taux d'inoccupation, ça va causer des ennuis pour tout le monde. Alors, le simple fait que la nouvelle construction n'est pas ciblé directement aux classes pauvres, ne veut pas dire que les classes pauvres ne vont pas recevoir un bénéfice à cause de la construction de cette nouvelle maison, de ce grand tour, de ces condominiums. Alors, c'est très important que, non seulement que les gens puissent entrer dans le marché locataire, mais aussi que les gens ont l'incitation de sortir de ce marché à un certain âge.
Yeah.
Puis le deal qu'on a fait, c'est que c'est elle qui m'a prêté l'argent. Encore là, à 5 % pour que je rénove. Elle m'a prêté 8 000 j'ai sorti moi aussi un peu d'argent. Ma future locataire m'a prêté 8 000 à 5 % pour que je rénove le logement qu'elle allait habiter. Fait que le deal qu'on avait, c'est elle me prête 8 000 mais je pars son loyer à 400 par mois sur le plateau. Puis j'ai donné 5 %. Fait que pendant, je pense que c'est un an et demi ou plus, elle n'a pas payé de loyer. Elle m'a remboursé en payant pas de loyer pendant un certain temps. Puis qu'est-ce que ça fait si je perds, je sais pas, une couple de mille par année? C'est quoi le prix d'avoir une belle communauté de monde qui compte sur toi, qui sont contents d'avoir leur logement, qui sont contents de vivre ensemble, qui en prennent soin de mon logement, puis qui l'aiment parce que c'est le fun ce qu'on a fait là-bas? Ça n'a pas de prix, à mon avis. Bah.
Bah. Bah.
Comme en témoignent toutes les personnes que vous venez d'entendre, le problème du logement est complexe car il fait intervenir des considérations nombreuses et parfois opposées. Nous nous sommes demandé si les élus responsables des politiques du logement ne trouvaient pas difficile de concilier, dans leurs décisions, des intérêts aussi conflictuels que ceux des locataires, ceux des gros investisseurs et les aspirations économiques de la ville. Nous avons donc posé la question à Michael Appelbaum, maire de l'arrondissement Côte des Neiges Notre-Dame-de-Grâce et responsable de l'urbanisme, de l'habitation, des services aux citoyens et des relations avec les arrondissements de la ville de Montréal.
À ce moment, je pense qu'on a fait du bon travail pour convaincre le gouvernement provincial et de travailler en partenariat avec nous. C'est du bon travail. On est très fiers de nos réalisations. Et notre rôle, c'est de toujours prendre en considération les besoins de la population. Comme ça, si c'est un promoteur avec 200 unités de logement, un gros promoteur qui veut construire 2000 logements, notre souhait, c'est toujours d'essayer de trouver le meilleur projet qui va répondre à la population. On va travailler fort, on va les expliquer c'est quoi notre volonté, quelle direction qu'on veut que le promoteur prend, et à la fin de tout ça, c'est les élus qui vont prendre une dernière décision. Il y a des groupes, il y a des individus qui vont venir pour exprimer leur point de vue. Comment ils voient leur quartier? Qu'est-ce qu'ils veulent dans leur territoire? Comme ça, c'est les arrondissements qui travaillent étroitement avec le milieu pour savoir c'est quoi la vision d'un arrondissement.
Vous, on ne sait pas, mais nous, on s'est senti un peu frustré par ce constat angélique de la situation. Et puis un jour, nous avons pris un café avec une personne travaillant au département d'urbanisme de la ville de Montréal et qui, comme elle désirait garder l'anonymat, sera en quelque sorte la gorge profonde de ce dossier.
C'est de négocier avec le promoteur, mais c'est vraiment une négociation parce qu'il n'y a rien de. C'est pas noir sur blanc. On tente de convaincre ces professionnels du bien fondé de ce qu'on veut voir comme projet. Ce ne sont pas des directives, ce sont des orientations, je dirais. Dans la plupart des cas, ça se passe assez bien. Les promoteurs ont des professionnels, je dirais, qui sont un peu peut-être challengés par ça en disant bon, il y a un client à servir. Il y a des normes ou il y a des critères vers lesquels tendre. Fait que ça peut être emballant pour un professionnel de convaincre son client d'aller dans une direction ou une autre. On a des promoteurs qui sont un peu plus Tu t'es-tu où ils arrivent vraiment avec leur projet en tête, puis ils n'ont jamais pensé que ça existait le métier d'architecte, que ça existait le métier d'urbaniste, puis que ce sont des professionnels qui pouvaient bonifier leur projet. Ils arrivent avec un projet, ils savent combien d'argent ils vont vendre les condos, ils savent déjà, je sais pas, le financier qu'ils vont faire avec ça. Est-ce qu'ils ont une idée de l'esthétisme? Peut-être, là, mais elle leur est très particulière. Là, ils sont en tête, ne négocient pas. Alors, il y a des promoteurs qui sont un peu mieux branchés politiquement, puis qui vont faire la boucle. Alors, ils négocient un bout de temps avec le département d'urbanisme. Puis là, ben, si c'est de part et d'autre, il y a un discours de sourd, comment on dit ça, ben là, ils vont faire aller leur connexion politique pour tenter de faire des pressions sur le département d'urbanisme pour faire accepter les projets. Je pense que l'administration actuelle est comme écrit un peu au secours. Hein. Ils sont partis sur les grands projets, ils veulent voir des grosses constructions, ils veulent voir des gros projets, ils veulent annoncer, ils veulent faire l'annonce de gros et grands projets. Ça peut être intéressant, ça peut être emballant. En même temps, je pense que ça crée une vie artificielle. Je pense que ça ne crée pas la vie dans les quartiers, ça ne crée pas d'adhésion aux quartiers, ça ne crée pas de... Je ne suis pas certaine si ça crée vraiment des nouvelles habitudes. À faire auprès des promoteurs. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des promoteurs. Il y a beaucoup de ventes à faire auprès des promoteurs. C'est quoi une meilleure architecture? C'est quoi une meilleure intégration architecturale? Ça, je ne crois pas que ce soit mis en place. Je ne crois pas que la Ville de Montréal a déployé une campagne de sensibilisation ou une approche auprès de ses clients-là, ou de définir avec ses clients-là de quoi ils ont besoin, comment on pourrait mieux les aider, puis en plus de dire, nous autres, notre bout, là, vous aviez des besoins, on tente d'y répondre. Nous, comme ville, on a des besoins. Comment allez-vous tenter d'y répondre? Alors, je ne crois pas que la ville a instauré un dialogue avec ses promoteurs. À chaque fois que débarque un promoteur, comme dans Griffintown, on croit au Messie, alors on fait les mille et une courbettes. Alors, c'est comme s'il arrive un promoteur, on est surpris. Alors, on veut lui plaire, on veut que le projet fonctionne, on veut que son projet marche. Alors, on n'a pas instauré un dialogue avec l'ensemble des promoteurs. Je trouve que la consultation qui se fait, ou la concertation, là, est un petit peu artificielle, parce qu'elle n'est pas faite là où est-ce que les vrais pouvoirs s'échangent, où est-ce que les vrais échanges peuvent avoir lieu. Tu comprends? Quand les groupes communautaires ou la population est appelée à se prononcer, souvent le projet il est canné, il est assez avancé pour qu'on veuille plus ou pour qu'on puisse plus négocier beaucoup. Alors c'est comme si on donne à la population l'idée qu'elle a le droit de se prononcer, qu'elle est entendue, mais elle ne l'est pas vraiment. Puis elle n'a pas non plus la capacité de se prononcer.
Il y a un lien super important entre le bien-être et le bonheur et l'environnement bâti et le cadre bâti et sa qualité. Comment peut-on être heureux si on vit dans un environnement qui nous rend malade? Moi, j'ai fait ma maison, puis je continue à faire ma maison, puis les meubles qui vont dedans pour qu'ils soient inspirants, parce que je pense que c'est une condition à vivre une vie inspirante. And we roll around like dice. Gave love and like a spin to see how it feels to win or lose it all. Lose it all. Lose it all, Montreal. Well, she's a ball breaker if she's giving calls, Montreal. If you want to get to me, you'll soon see she's the line you've got to cross. Oh, Montreal. Montreal.
C'était Sous le radar, une émission de Radio Créum, présentation Marc Zaffran, réalisation, montage et tout le reste Martin Blanchard.